Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très, très heureux ce soir de vous accueillir dans cette salle pour partager une étude, un exposé sur le mariage et sur la famille. Ce sont deux sujets qui nous concernent tous, plus ou moins, de près ou de loin. C'est l'Église du Christ à la rue de la Terrassière qui a organisé les entretiens de ce soir. Nous allons donc vous présenter une perspective chrétienne, donc biblique, du mariage et de la famille. Nous n'avons pas, bien sûr, la prétention de pouvoir apporter toutes les réponses à tous les problèmes, à tous les conflits qui pourraient avoir lieu dans les mariages autour de nous. Mais nous espérons simplement que par ces exposés, nous puissions amener quelques idées, quelques réflexions qui puissent peut-être vous faire avancer ou avoir peut-être une autre opinion de ce qu'est le mariage et la famille. Les idées qui seront présentées sont tirées du livre que vous n'avez pas encore reçu, mais qui vous seront distribués après, c'est un livre orange, la vie familiale, une aventure chrétienne. Et on vous a distribué maintenant deux feuilles. Sur la première de ces feuilles, il y a une présentation de qui nous sommes. Et sur la deuxième de ces feuilles, il y a une bibliographie de différents livres, enfin différents livres que vous pouvez avoir et que nous pouvons ici vous proposer. Si vous êtes intéressé, nous pourrons aussi vous les commander, si vous le souhaitez. On va vous distribuer encore maintenant une feuille qui contiendra toutes les références bibliques et le déroulement des exposés de ce soir. De plus, M. Grady Smith, qui est ici, et moi-même serons très heureux, à la fin de l'exposé, de répondre à vos questions personnelles, si vous en avez bien sûr. Et vous êtes cordialement invité à la fin de cette soirée à partager des rafraîchissements qui vous seront offerts. J'espère que vous passerez un excellent moment ce soir, que vous trouverez les réponses à vos questions sur les sujets que nous allons vous proposer ce soir, le mariage et la famille. Pour commencer cet exposé, j'aimerais donner une définition du bonheur dans le mariage. C'est le roi Salomon, qui était très sage, inspiré par Dieu, qui a écrit cette phrase dans le livre de l'Ecclésiaste. « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » Je crois qu'il n'y a certainement pas de meilleure définition pour prononcer quel est un mariage heureux. Premièrement, il y a le fait de jouir de la vie. Il faut profiter de la vie, il faut partager ce que Dieu nous donne. Il y a la femme ou le mari que tu aimes, qui correspond à l'amour. Ce mot, l'amour, n'est pas seulement un sentiment, mais il comprend aussi le respect, il comprend aussi l'engagement et le fait d'honorer son conjoint. L'amour, c'est l'ingrédient qui est indispensable au mariage. Il en est le combustible qui alimente chaque jour le feu qui a été allumé le jour où vous vous êtes marié. C'est ta part, nous dit encore ce texte. Dieu donne le mariage, et c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a donné le mariage. Et ceci depuis très longtemps, depuis qu'il y a des femmes et des hommes sur la terre. Le mariage n'est pas fait pour être malheureux, mais le mariage a été fait, a été créé pour être heureux, et pour procurer le bonheur, et tout ceci est fait selon la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'il en est toujours ainsi? Dans le monde que nous côtoyons tous les jours, est-ce que nous pouvons dire vraiment que le mariage est toujours heureux? Je crois que ce n'est pas le cas. Alors, avant de parler sur le bonheur, j'aimerais partir un peu sur un point négatif. Le divorce et les causes du divorce. Un article dans le journal Le Temps, du 20 juillet de cette année, mentionne que la Suisse a le taux de divorce le plus élevé d'Europe, et ceci après les pays nordiques. On dénombre actuellement en Suisse 4 divorces pour 10 mariages, et cette proportion tend encore à augmenter. On peut voir dans ces statistiques que le divorce survient le plus fréquemment entre 5 et 9 ans de mariage. Alors ça veut dire que malgré tous ces divorces, tous les couples qui restent mariés, qui ne divorcent pas, sont des couples qui sont heureux. Eh bien non. Beaucoup de couples ne divorcent pas, restent ensemble mais ce sont des couples qui sont malheureux pendant de nombreuses années. Alors voyons un peu quels sont les effets destructeurs qui sont liés au divorce. Je vois un premier effet qui sont les problèmes économiques. Il y a une étude aux États-Unis qui a démontré que le divorce et les conflits engagés pour la garde des enfants sont la cause principale de pauvreté pour les mères et pour les enfants. Pour les femmes, en effet, un divorce peut aboutir à une réduction du niveau de vie pouvant atteindre jusqu'à 74%. Donc ceci, c'est pour les États-Unis, bien sûr. C'est une baisse considérable. Et cette baisse fait que beaucoup de femmes atteignent le seuil de pauvreté. Alors qu'au contraire, le niveau de vie du mari, quand il divorce, aurait plutôt tendance, lui, à augmenter. Alors je vous rassure, je ne dis pas du tout cela pour inciter les maris à divorcer. Il y a un deuxième effet destructeur. Quand il y a un divorce, cela amène des problèmes de santé physique et des problèmes de santé mentale. La détresse conjugale peut conduire à de l'hypertension, à l'affaiblissement du système immunitaire, à des problèmes gastro-intestinaux, des problèmes respiratoires et des problèmes urinaires, pour n'en citer que quelques-uns. Les problèmes conjugaux sont une des causes principales de dépression. Et la dépression est le problème de santé mentale le plus courant dans notre société. Et ce ne sont là que quelques exemples. Il y a le comité de l'Institut de santé mentale qui a conclu ceci. Les problèmes conjugaux sont le principal facteur de risque pour une multitude de problèmes de santé mentale et physique. Il ne faut pas, bien sûr, de plus oublier les conséquences indirectes du divorce. Par exemple, le manque de productivité. Les travailleurs, les ouvriers, qui sont complètement démotivés par un divorce, par un conflit conjugal, ou un manque de travail, ne sont plus motivés, et ceci peut bien sûr aboutir à des licenciements. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Pourquoi est-ce que le mariage, où nous devrions être heureux, aboutit à ce genre de choses? Qu'est-ce qui pousse les gens à rompre leur union alors qu'ils se sont promis fidélité le jour de leur mariage jusqu'à ce que la mort les sépare? Il y a là aussi plusieurs raisons. Je crois que le mariage actuellement a été banalisé. On a banalisé le mariage et aussi on banalise le divorce. La société, vous savez, dans laquelle nous vivons est une société qui est dite de consommation. L'usage est de jeter et de remplacer plutôt que de réparer. Alors on va me dire que cela concerne du matériel. Oui, c'est vrai. Mais je crois, en ce qui concerne le matériel, on peut l'appliquer aussi en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne le rapport que nous avons entre êtres humains. Plutôt que de se réparer, ou plutôt de se réconcilier, on préfère plutôt se séparer. J'entendais une personne raconter la veille de son mariage qu'il voulait déjà se mettre en relation avec un avocat pour voir, disons, l'éventualité, disons, d'un mariage, d'un divorce futur. Un tel autre trompait déjà sa fiancée avant de se marier. Le mariage a quand même eu lieu et il a duré moins d'un mois. Dans le passé, le divorce était considéré comme une honte. Aujourd'hui, non seulement le divorce est toléré, mais il est presque encouragé. Lorsqu'on considère l'exemple qui est donné par toutes les célébrités du monde que l'on appelle du showbiz, je crois que l'on peut compter sur les doigts d'une main toutes ces vedettes, toutes ces idoles qui n'ont pas au moins divorcé une fois. Et ces personnes qui sont très très médiatisées ont une influence qui est considérable sur la population. Je crois que beaucoup de personnes se disent qu'ils peuvent faire de même. Pourquoi? Parce que c'est la mode et que tout le monde fait la même chose. Les gens vont s'identifier à leurs idoles, les gens vont s'identifier à leurs vedettes de cinéma ou autres. Deuxième point, c'est qu'on ne réalise pas ce que le mariage implique. On dit qu'avant le mariage, on tombe amoureux cette fois. Et on dit qu'après le mariage, on tombe encore amoureux cette fois. Mais alors là, bien sûr, les conditions sont différentes. Si on peut peut-être se permettre de tomber amoureux cette fois avant le mariage, après le mariage, il y a des conséquences, donc il y a un engagement à respecter. On ne se rend pas bien compte toujours des concessions qu'implique un mariage. On a eu par exemple un coup de foudre, et on va croire que c'est ça le grand, le vrai, le véritable amour qui va durer toute une vie. Et contrairement à la croyance populaire, Ce n'est pas seulement l'intensité de l'amour qui peut prédire le futur d'une relation, mais plutôt comment les conflits et les désagréments vont être supportés. Malheureusement, dans un mariage, les conflits sont inévitables. De toutes sortes, que ce soit pour des peccadilles, que ce soit pour des choses très importantes. Et il faudra faire des concessions auxquelles peut-être on n'est pas préparé. Vous tomberez peut-être amoureux d'une autre personne. Vous aurez alors un conflit avec vous-même. Votre engagement dans votre ménage, quel est-il? Et un conflit au sein du couple, si votre conjoint le sait. Alors, pour faire un bon mariage, il faut apprendre, je dirais presque à se battre, mais en tout cas à le gérer correctement. Pourquoi toujours le divorce? Le manque de connaissance du partenaire. Ma femme et moi, nous avons vécu très heureux pendant 25 ans, dit un monsieur à un ami. Et le mari lui dit, oui, et après? Et l'autre lui dit, ben après, on s'est rencontrés. Je ne pensais pas que ma femme était comme ceci. Je ne pensais pas qu'elle était tellement comme cela. Je ne pensais pas qu'elle était si impatiente. Je ne pensais pas qu'elle était si impulsive. Elle a un défaut vraiment que je n'arrive pas à supporter. Autrefois, il y avait la période dite des fiançailles, destinée non pas à avoir immédiatement des relations sexuelles, mais plutôt de connaître les goûts, de connaître les intérêts, de connaître les croyances, de connaître le caractère de l'autre, pour savoir s'il y avait compatibilité entre les fiancés. Bien sûr, maintenant, cette période des fiançailles est bien souvent supprimée. On y préfère plutôt le goût du plaisir immédiat. Donc je parle du plaisir sexuel. On s'engage alors sur du court terme, la raison étant la méconnaissance de l'autre. Les fiancés devraient être avant tout des amis qui se connaissent mentalement. Un philosophe a dit, la vraie amitié, c'est une seule âme dans deux corps différents. Une seule âme signifie que l'on connaît l'autre. Je ne sais pas si beaucoup de mariages actuellement ont lieu et que chaque conjoint connaisse vraiment l'autre, s'ils sont vraiment une seule âme dans deux corps différents. Le quatrième point, c'est le manque de planification, le manque de préparation du mariage, donc qui devrait se faire pendant les fiançailles. Un bon mariage demande du travail. Qu'est-ce qu'on recherche dans le mariage? Quels sont les buts communs que nous voulons atteindre dans une union? Comment y parvenir? Comment pourrons-nous résoudre divers problèmes? Voulons-nous des enfants? Combien? Etc. etc. Comment allons-nous élever nos enfants? Vont-ils être élevés dans un foyer chrétien? Vont-ils pouvoir faire n'importe quoi? Va-t-on devoir les corriger? Comment allons-nous nous y prendre? Autant de questions qu'il faudrait réfléchir, qu'il faudrait préparer avant de s'engager dans le mariage. Quand les problèmes surviennent, c'est souvent trop tard pour commencer à planifier. Et il faut utiliser l'énergie des premiers amours. Vous savez qu'on est plein d'énergie quand on est fiancé. Et c'est là ces premiers amours qu'il faudrait, cette première énergie avec laquelle il faudrait planifier pour construire sur du long terme. Le cinquième point, c'est l'égoïsme et l'intolérance. Le point de départ est souvent faussé lorsque peut-être les futurs mariés se disent qu'est-ce que le mariage va m'apporter, au lieu de penser qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à mon conjoint. On attend de recevoir quelque chose du mariage plutôt que de donner quelque chose à l'autre. On se marie maintenant pour se réaliser, pour une expérience, pour être épanoui, pour avoir vécu quelque chose. Mais tout ceci est personnel. Le mariage devrait être contacté en pensant à l'autre. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à l'autre? Cette perspective égoïste nous conduit directement à l'intolérance, qui nous fait voir chez l'autre que les défauts, et ne considérer que ce qui est mauvais, sans considérer bien sûr ce qui est bien. Et l'intolérance fait partie intégrante de l'égoïsme. Jésus a dit ceci à propos de l'intolérance et de l'égoïsme. Il dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. On a toujours tendance à regarder le défaut chez l'autre, mais on ne regarde pas nous-mêmes. la poutre qui est dans notre propre œil. Il y a encore un point qui est, j'appellerais, la libération de la femme, l'émancipation. La femme veut s'épanouir et travailler comme l'homme. Je pense qu'il n'y a rien de mauvais à ça. Je pense que les femmes, bien sûr, peuvent travailler. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu un mouvement d'émancipation de la femme où il y a une chose qui a été très négative, qui a été la dévalorisation de la femme au foyer. Et il a fallu que les femmes aient s'émanciper, comme on dit, dans un travail de tous les jours. Et quand je considère peut-être une femme qui est dans son foyer, qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de son ménage, et quand je vois une femme émancipée qui tire toute la journée des caddies dans un grand magasin, je me demande si c'est vraiment une réussite, l'émancipation. On a dévalorisé, on a méprisé la femme au foyer. Et je crois qu'il n'y a rien, au contraire, de plus valorisant qu'une femme au foyer qui s'occupe de sa famille, qui s'occupe de ses enfants. Un autre point concernant le divorce, je dirais qu'il n'y a pas de fondement religieux. Il y a beaucoup de prescriptions bibliques qui ont été écartées sous prétexte qu'elles sont vieux jeux. C'est vrai, tout ce qui est biblique, c'est quelque chose qui est poussiéreux de nos temps. Ceci, bien sûr, est une erreur. Considérez le monde autour de vous. Un monde qui est dit moderne, où pratiquement tout est permis. Les couples libérés, les familles monoparentales, les mariages homosexuels, les enfants qui sont déchirés, les enfants malheureux, qui créent par la suite la délinquance. Un foyer solide sera construit sur un fondement qui est solide. Sinon, tout va s'écrouler à la première tempête. Et c'est Jésus qui enseigne, dans ces passages que l'on considère parfois comme poussiéreux, qu'il faut construire sur le roc plutôt que sur le sable. Ce principe qui a été enseigné il y a 2000 ans est toujours valable. Et c'est un principe qui est primordial pour un mariage durable. Notre but de ce soir, c'est de trouver maintenant les éléments pour un mariage et une famille heureux.
Nous avons voulu ce soir mettre dans vos têtes une image de ce que c'est, ce que peut être la famille. Et donc nous avons choisi l'image d'un mobile. Alors c'est ça que vous voyez devant François. Et puis, pour commencer avec une famille, bien sûr, il faut commencer avec la femme, mais on va mettre simplement l'homme aussi. Et ce que nous voyons, c'est que avec chaque mobile, nous voyons qu'il y a pas mal de flexibilité, mais il y a aussi de l'ordre qui existe. Et que dans une famille, c'est un peu la même chose. Nous avons des liens les uns avec les autres. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une certaine liberté de mouvement, mais que cette liberté de mouvement, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, ça a une influence sur les autres parties du mobile. Et c'est la même chose dans la famille. Il y a des gens qui vont grandir plus vite que d'autres. Il y a des gens qui vont passer par une croissance spirituelle, une croissance physique, ou d'autres qui vont passer par un avancement au niveau de leur éducation. Et chaque fois qu'il y a l'un de ces personnes qui change, ça change aussi le système. Comme le mobile, ça change aussi le système de la famille. Nous allons mettre aussi maintenant nos enfants là-dessus. Bon, on a mis un garçon et une fille, peut-être, je ne sais pas ce qui sera les familles que vous avez, mais je vais les mettre quand même. Et il faut savoir, dans chaque famille, il y a des naissances, il y a aussi des fois des morts, il y a des réussites, il y a des échecs. Et chaque fois qu'une de ces choses se passe, ça touche toute la famille. Mais ne devons pas oublier que comme le mobile a quand même un cadre dans lequel on doit rester, c'est la même chose pour la famille. Il y a un cadre dans lequel on reste, toujours on influence l'un l'autre.
Quelque chose, on se rend compte que c'est assez bizarre, mais pas, n'est-ce pas le mariage. Et il y a un auteur qui s'appelle Amiel qui a dit ceci. Le mariage tel qu'il est une singulière chose, mais après tout, on n'a encore rien trouvé de mieux. Donc il faut faire avec. Comme nous l'avons vu précédemment, le mariage n'est pas quelque chose qui tombe du ciel tout prêt, tout cuit. Le mariage est quelque chose, au contraire, qui se prépare et qui se travaille. Le mariage est un engagement à haut risque. Imaginez quelqu'un qui vous dise « Donne-moi tout ton argent et je vais aller jouer à la roulette. Et puis, si ça tombe sur le bon numéro, je vais te rendre 36 fois la mise, comme on dit. » Ça veut dire 36 fois plus. Combien d'entre vous seraient prêts à donner tout leur argent pour un coup de poker, pour un coup de roulette? En tout cas, moi, personnellement, je ne serais pas prêt à le faire. Et c'est exactement la même chose pour le mariage. Le mariage n'est pas une loterie. Il faut planifier, il faut considérer, il faut évaluer ses chances au niveau du mariage. Et ces chances doivent être faites de notre côté. Il faut se mettre un maximum de chances de notre côté. Et le coup de foudre alors? Nous avons vu précédemment que ce n'est pas une valeur sûre pour garantir un mariage heureux à long terme. J'aimerais savoir combien de divorces ont eu lieu suite à un coup de foudre. Pour aller voir plus loin, je pense qu'il est bon de considérer la définition du mariage. Le mariage est une alliance qui est sanctionnée par l'autorité chargée de l'ordre social, par laquelle un homme et une femme s'engagent sans contrainte à mener une vie commune et à s'unir, bien sûr sexuellement. Pour mieux comprendre cette définition, reprenons quatre expressions utilisées dans cette définition. La première, c'est « alliance ». Dans le dictionnaire, on trouve plusieurs définitions d'une alliance dans celle-ci. C'est une union qui est contractée par engagement mutuel. Il faut que les deux partenaires désirent une union pour pouvoir la faire. On ne peut pas forcer quelqu'un à se marier. C'est un consentement mutuel. Théologiquement, une alliance, c'est un pacte. Et dans la Bible, on voit que c'est un pacte, par exemple, entre les Hébreux et Dieu. Et on trouve, c'était l'ancienne alliance qui est écrite dans l'Ancien Testament, et c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. C'est aussi un pacte entre le Christ et les hommes, que l'on appelle la nouvelle alliance, et qui, elle, est découverte et décrite dans le Nouveau Testament. Le mariage dans les Écritures, le mariage d'un homme et d'une femme, donc un mariage terrestre, dans les Écritures sert de parabole d'illustration pour montrer l'alliance de Dieu avec son peuple. Dans la Bible, il est dit que Christ est le mari et que l'Église est l'épouse du Christ. Donc ça sert de parabole pour montrer le lien qui existe entre Dieu et les hommes. L'alliance du mariage a donc son origine en Dieu. Elle n'est pas une invention humaine que l'on peut modifier à sa guise, comme on le veut, parce que ça nous convient, parce que ça nous plaît mieux, parce qu'on considère que c'est plus facile, etc., etc. La deuxième expression, c'est « sans contrainte ». Il n'y a d'alliance que dans la liberté. Pour aimer, il faut pouvoir avoir le choix d'aimer. On ne peut pas imposer l'amour. L'amour est une chose qui ne se commande pas. On ne peut pas imposer. L'amour doit être choisi. Cela semble évident aujourd'hui. Mais il y a plusieurs textes bibliques qui démontrent que ce principe existait déjà dans l'Ancien Testament, par exemple dans la Genèse, qui sont des textes très très anciens. Et j'aimerais souligner quelque chose d'important. On a la liberté d'entrer dans une union, on a la liberté de se marier. Mais une fois qu'on est entré, une fois qu'on est marié, on a la contrainte ou on a la responsabilité de rester marié. La troisième expression, c'est la vie commune, c'est l'union. Jésus parle du couple homme et femme dans Matthieu chapitre 19, verset 6. Et Jésus dit ceci, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Donc il y a vraiment une union. Et c'est l'union sexuelle dont il a fait mention ici. C'est une phrase qui non seulement en plus, disons, englobe le côté de l'alliance sexuelle, mais elle englobe aussi le sens large. Il y a une union aussi au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. C'est la formule même du mariage. C'est une seule entité sociale, c'est-à-dire la cohabitation et la prise en compte des besoins mutuels. La quatrième expression de cette définition, elle est sanctionnée par l'autorité. Elle est sanctionnée ou elle est validée par l'autorité. Jésus nous commande ceci. que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Dieu, dans un premier temps, a institué le mariage, mais c'est ensuite la loi qui lie les époux entre eux. Il faut comprendre que la loi et que les magistrats, donc les magistrats terrestres, agissent sous l'autorité de Dieu. C'est donc une erreur que de vouloir s'y soustraire.
Sur vos feuilles, j'ai mis une citation pour commencer une partie que j'aimerais vous parler des quatre choses différentes, des problèmes de communication que nous pouvons avoir dans un couple. Le passage, c'est dans Philippiens chapitre 2, les versets 2 à 4, vous pouvez lire, qui dit « Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Vous savez bien que nous ne nous marions pas avec un bateau, avec une voiture ou avec un ordinateur. Et des fois, ces choses sont difficiles à comprendre. Des fois, on passe des heures et des heures à comprendre son ordinateur ou sa voiture. Mais pas aussi difficile à comprendre qu'une personne, car une personne est très complexe, avec un passé, avec des espérances pour l'avenir, avec des attitudes et des désirs, avec des soucis et des attentes. Et le pire, c'est que nos conjoints sont eux aussi mariés avec des personnes, sans doute avec beaucoup moins de problèmes et difficultés qu'eux, mais ils sont mariés avec des personnes et les deux ensemble, on peut avoir des conflits dans une relation. André Mauroy a écrit « Un mariage heureux est une longue conversation qui semble toujours trop brève. » Alors, pourquoi nos conversations semblent des fois être interminables et toujours, au lieu d'être trop courtes? Car souvent, nous nous bagarrons plus que nous communiquons avec nos conjoints. Dans le livre de Mark Mann, Stanley et Bloomberg, qui s'appelle « Lutter pour votre mariage », les auteurs soulignent quatre signes de problèmes de communication et de conflit. Le premier problème qui arrive des fois dans la communication, c'est qu'il y a l'escalade quand il y a conflit. C'est que chacun répond négativement à l'autre jusqu'à ce que la situation devienne insupportable. Bon, ma femme n'est pas là ce soir, mais j'ai demandé à Aline d'être ma femme pendant quelques minutes. On va faire justement ce que c'est, comme ça vous allez comprendre ce que c'est. Je ne comprends pas pourquoi tu laisses traîner tes sélections partout.
Et toi, tu n'as jamais ton journal sur le buffet, peut-être.
Puisque tu le mentionnes, je range toujours les choses.
Ah, ouais, c'est juste. J'ai oublié combien tu es maniaque. Tu as raison, comme tout.
Je ne sais pas pourquoi je reste avec toi. Tu es si négative.
Et qui va t'en empêcher de partir?
Nous remarquons très vite donc, l'escalade dans cette conversation. Où on commence avec les sélections et on finit avec des menaces de divorce en traversant le pays de maniaques et des accusations d'être toujours négatif. Et c'est un problème courant de la communication qui manifeste un manque de respect envers l'autre. Résultat, c'est qu'il y a de la colère et la frustration. Et bien sûr, toute communication est tout de suite coupée. Alors, quel est le problème? Le problème, en réalité, c'est qu'on va se dire des choses qui ne sont pas vraies. En réalité, nous ne désirons pas une séparation, mais parce que nous sommes pris dans le conflit, nous allons commencer à accuser l'autre et dire qu'il peut partir, au moins je vais partir. Et ça finit toujours avec une vraie bagarre. Y a-t-il une autre manière d'agir? Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et passe le bien, qui recherche la paix et la poursuit. Deuxième problème qui arrive dans la communication, c'est pas simplement l'escalade, mais c'est de dire à l'autre, ton problème ou tes efforts ne sont pas appréciés. Ça peut être qu'un partenaire n'accepte pas les sentiments de l'autre, les pensées ou son caractère. Un partenaire peut attendre à recevoir aussi un remerciement, mais au lieu de recevoir cela, il reçoit des critiques. Et donc, on va banaliser les sentiments et les efforts de l'autre. Ici, c'est Aline qui a travaillé toute la journée et puis a eu des problèmes au travail.
Je suis vraiment pas content de cette évaluation que j'ai reçue
au travail. Oh, ce n'est pas si mauvais que ça. Je serais content de recevoir une évaluation si positive.
Non, mais tu ne comprends pas cette évaluation bien.
Oui, si, je comprends. Mais tu exagères. Des fois, notre motivation peut être bonne, mais parce que nous sommes un peu maladroits, nous ne valorisons pas notre époux et nous minimisons la souffrance. Le problème, c'est vraiment le manque de respect, quand on ne prend pas le temps d'écouter les sentiments de l'autre. J'ai choisi un exemple qui était assez banal. Il n'y a pas beaucoup de mal qui est fait. Mais il y a des fois où nous pouvons blesser l'autre, car notre conversation n'est pas guidée par le respect de l'autre. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On va essayer de nouveau. Cette fois, on va utiliser un peu plus de respect. Aline?
Je ne suis vraiment pas contente de cette évaluation que j'ai reçue aujourd'hui au travail.
Ah, cela doit t'énerver.
Oui, beaucoup. Puis j'ai des soucis concernant ma sécurité professionnelle au travail. Si je ne peux pas garder cette position, que ferons-nous?
Je ne savais pas que tu avais peur de perdre ton travail. Raconte-moi ce qui s'est passé. Ici, nous voyons s'il y a du respect, on peut écouter les sentiments de l'autre. Peut-être on ne va pas résoudre son problème, mais on montre notre respect. Troisième chose, une manière de gérer le conflit qui ne marche pas et qui montre un manque de respect, c'est le retrait ou l'action d'éviter une confrontation. Il y a l'un des deux qui veut continuer une conversation importante et l'autre qui ne veut pas à tout prix entrer dans cette conversation. Peut-être il va quitter la chambre, peut-être il va simplement prendre un journal, mais il va faire quelque chose pour ne pas entrer dans la conversation, ou même il va essayer de changer de sujet. L'évitement, c'est simplement de ne pas se mettre dans une position où la conversation est possible de continuer. Il y a un autre point de vue, c'est ceci. C'est pourquoi rejeter le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. L'exemple, c'est ceci. Il y a une personne qui veut résoudre le problème, et l'autre qui veut éviter le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui poursuit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poursuivre de plus en plus. Et qu'est-ce que l'autre va faire? Il va se retirer de plus en plus. Et donc, on n'arrive pas à résoudre ce problème. Le problème, c'est vraiment il y a un manque de respect pour l'autre, de résoudre les problèmes qui existent. Ce n'est pas très, très positif de jouer au cache-cache dans une relation. Le quatrième et dernière chose qui montre comment il ne faut pas gérer le conflit et qui montre un manque de respect, c'est ce que nous pouvons appeler les interprétations négatives. L'un des deux croit que les motivations de l'autre sont moins bonnes qu'en réalité. Et ceci peut détruire une relation et rendre plus difficile toute résolution du problème. Par exemple, on va faire un couple cette fois-ci. Moi, je pense à notre budget familial. On avait fait un budget et il faut rester dans ce budget. Aline a un autre souci, c'est de voir ses parents.
Il faut commencer à chercher des budgets.
Penses-tu que nous avons assez d'argent pour le faire?
Ils sont très importants pour moi. Même si tu ne les aimes pas, c'est pas moi qui...
J'aimerais y aller vraiment, mais je ne sais pas comment nous pouvons le payer et changer d'appartement ici.
Sois honnête, il y a rien que tu ne veux pas y aller. Tu n'aimes pas être avec mes parents.
Il n'y a rien à confesser. J'aime rendre visite à tes parents, mais je pense à notre budget et non à tes parents.
Génial, pour une bonne excuse.
En réalité, ce que nous aimons le plus, sont ceux que nous arrivons à douter le plus. Et le problème avec cela, c'est que même avec les gens que nous aimons le plus, nous ne pouvons pas lire leurs pensées. Nous ne pouvons pas savoir quelles sont leurs motivations sans qu'ils ne nous disent. Il y a un point de vue biblique qu'on peut regarder qui dit ceci. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il se supporte tout. Donc, quatre manières d'agir dans un conflit sans montrer du respect. C'est l'escalade, c'est le manque d'appréciation des efforts et du problème de l'autre. C'est le retrait ou l'action d'éviter le problème. Et ce sont les interprétations négatives. Ce qui est bien, c'est que nous pouvons nous équiper d'abord à se rendre compte de ces manières de gérer le conflit qui ne marche pas. Et deuxième chose, nous pouvons apprendre vraiment comment communiquer. Si vous avez un partenaire parfait, vous n'avez pas besoin d'écouter cette partie, mais vous pouvez réveiller votre partenaire. Le conflit est inévitable, et cela est évident. Mais les erreurs sont inévitables aussi. Et que faire? Nous pouvons des fois entendre « Je te pardonne, mais je n'oublierai jamais ce que tu as fait. » Et c'est vrai qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas oublier. Elles font autant partie de nous que les bons souvenirs que nous avons. Mais le choix de ne pas oublier est vraiment autre chose. Décider de porter le fardeau de l'action de l'autre sur notre propre dos. Et ceci ajoute un stress à notre vie que nous ne pouvons pas supporter, car nous n'avons pas été conçus pour porter un tel fardeau. Alors, comme nous gérons le conflit et les erreurs comme il le faut, la rancune, quand nous ne gérons pas le conflit et les erreurs comme il le faut, la rancune augmente et forme un réservoir d'amertume en nous. Et c'est ce réservoir qui alimente le conflit, donnant lieu à d'autres événements qui empoisonnent notre relation. Donc vouloir pardonner, c'est éliminer le poison, c'est vider le réservoir d'amertume qui est en nous. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Toutes les fois que l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, et par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Il y a des fois quand quelqu'un dit, il y a des choses que je peux pardonner, il y a des choses que je ne peux pas pardonner. C'est vrai que des fois, il y a des petites choses qui... on peut pardonner et des fois on ne veut pas les pardonner. Nous devons prêter attention d'abord quand quelqu'un a oublié quelque chose ou quand il y a des inattentions, quelqu'un a fait quelque chose pas exprès. Il faut prêter attention que de ne pas vouloir que l'autre dise « j'ai eu tort ». Oui, j'ai eu tort. Par exemple, j'ai oublié un rendez-vous. Et c'est simplement que j'ai oublié. Et si je ne peux pas pardonner parce que l'autre n'a pas dit, bon, j'ai eu le temps, enfin, je vais attendre longtemps avant de pardonner. Si l'autre peut dire simplement, je suis désolé, si je peux pardonner à ce moment-là, je peux gérer ces petites choses. Mais il y a des fois que nous disons, ah, tu diras jamais que tu as eu le temps, n'est-ce pas? Jamais, jamais. Si tu me le dis, ça va. Non, c'est une inattention, c'est un oubli, ce n'est pas très très important. Si l'autre dit, ah, j'ai oublié, je suis désolé, ça devrait suffire. Mais que faire avec les grandes choses? Par exemple, l'infidélité ou des actions qui risquent de briser la relation. Devons-nous pardonner ces choses? L'une des définitions du petit Robert de pardonner, c'est renoncer de tirer vengeance de quelqu'un. Donc, c'est décider de ne pas sanctionner l'action comme elle le mérite. L'image est une dette annulée. Quand nous ne pardonnons pas, nous sommes en train de compter les points. Nous sommes en train de dire, d'après mes calculs, tu perds. Et je ne sais pas si tu peux me rattraper. Et quand notre partenaire est infidèle ou fait quelque chose qui risque de briser la relation, pardonner ne veut pas dire que la personne n'est pas responsable de ses actions. Pardonner veut dire qu'il n'y aura pas de punition pour ses actions. Il y a des conséquences, évidemment. La confiance dans le mariage est diminuée ou même détruite. Elle devra être reconstruite. Si dans les grandes choses, le partenaire prend la responsabilité de ses actions et il ne blâme pas l'autre, il y a toujours possibilité de pardonner. Jésus a dit, si ton frère se rend coupable, parle-lui sérieusement. Et s'il le regrette, pardonne-lui. S'il se rend coupable à ton égard sept fois en un seul jour, et chaque fois il revient te dire « Je le regrette », tu lui pardonneras. Alors, résumons très vite. En toute relation, il y aura des conflits et des erreurs. Vouloir pardonner va éliminer le poison qui contribue à détruire une relation. C'est décider de ne pas punir l'autre pour son action mauvaise. Un désolé pour les oublis et les inattentions devrait suffire s'il y a de l'amour et du respect dans le couple. Pendant qu'une vraie repentance doit accompagner les erreurs qui brisent la confiance dans le mariage. Il y a beaucoup plus à dire aussi sur le pardon. Et si vous avez encore des questions, on peut en parler après.
Nous pouvons résumer cette première partie de cet exposé par ce que nous appellerons la règle d'or. Là encore, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est une phrase qui est bien connue et qui ne nécessite aucun commentaire. Mais néanmoins, je relèverai deux points. Le premier, c'est qu'il ne faut pas attendre que l'autre fasse le premier pas, mais il faut nous-mêmes agir en premier. Et le deuxième point, c'est qu'il faut agir, donc des actes, et pas seulement parler. Il faut agir, il faut aimer avec des actions, nous dit la Bible, aimer en action, non pas seulement avec des paroles. N'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité, nous enseigne aussi l'apôtre Jean. Si on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour montrer à l'autre que je l'aime? Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est déjà un bon début. Et si en plus nous connaissons bien notre conjoint, alors à ce moment-là, nous pourrons faire ce qu'il aime. Et là, c'est Jacques qui nous enseigne en disant, si quelqu'un sait faire le bien, et ne le fait pas, il commet un péché.
Quels mots viennent à l'esprit quand nous mentionnons le mot engagement? Quels mots viennent à l'esprit?
Contraint.
Ok. Quel autre mot?
Responsabilité.
Y a-t-il d'autres mots qui viennent à l'esprit?
Salaire.
Ok. Pour engagement.
Parole.
Garder la parole. Ok. Donner sa parole.
Décision.
Ok. Prendre une décision. Ok. Quand j'ai regardé la liste, moi j'ai eu confiance, amour, obligation, loyauté, détermination, persévérance, priorité, piégé, fidélité, jusqu'à la mort. Ce sont des choses, avec les paroles que vous avez, les mots que vous avez mentionnés, qui décrivent ce que c'est que l'engagement. Et savez-vous qu'il y a un engagement positif et un engagement négatif ? Positif, c'est par exemple, il est engagé à sa carrière. On veut parler de son dévouement envers sa carrière. Mais il y a aussi un engagement que nous pouvons appeler négatif. François s'est engagé à donner la conférence de ce soir et c'est trop tard pour changer d'avis. Ça veut dire qu'il y a une obligation, une contrainte. Un engagement caractérisé par ce que nous pouvons appeler dévouement personnel parle du désir d'un individu de maintenir ou d'améliorer la qualité de la relation pour bénéficier des deux partenaires.